Église, voudriez-vous vous se lever pour lire la parole? 1 Corinthiens 7, 1, 1 Corinthiens 7, chapitre 7, versets 1 à 16. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis ça par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu ne vous a pas appelé à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Prions. Seigneur Jésus, alors que nous nous retrouvons, il y a beaucoup dans cette salle, comme j'ai entendu certains de tes paroles aujourd'hui, il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de manque de foi. Alors, Seigneur Jésus, j'élève tous dans cette salle qui sont peut-être sur le point de se séparer ou de divorcer. Ceux qui sont célibataires, veuves ou veufs, ou dans ce jour spécial, en ce jour spécial, ceux qui n'ont pas de relation avec leurs parents biologiques, que tu puisses les rencontrer là où ils sont, dans leur douleur, dans leur souffrance, dans leur incertitude. Fortifie-les, sachant que tu es un bon père. Pas seulement un bon père, mais comme un bon père aussi, un bon mari. Seigneur Jésus, rencontre-nous ce matin. Rends-nous capables. Seigneur Jésus, avec tout ce qui se passe à travers le monde, particulièrement ce qui se passe au Moyen-Orient, que ta main providente puisse se poser sur toute chose. Peut y avoir cette grande saison d'incertitude encore? Est-ce que cette guerre va devenir plus grande qu'on l'a jamais, comme on l'a jamais vu? Seigneur Jésus, aide-nous à te faire confiance et non aux circonstances que nous voyons avec nos yeux. Que les choses qu'on ne voit pas, comme tu es assis sur le trône, sur ton trône, le Seigneur de ce monde, puisses-tu régner suprêmement au-dessus de toutes ces choses. En ton nom, Jésus, nous prions. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Alors, Oui, je porte une cravate. Parce que peut-être seulement parce que mon père est en train de regarder à partir d'Australie. Au père, tu peux regarder. Et je ne le ferai plus jusqu'à l'année prochaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vin. Je suis l'un des pasteurs ici à l'église Willingdon. C'est une joie pour moi de prêcher à partir de 1 Corinthiens 7, 1 à 16. Alors, gardez vos Bibles ouvertes à cet endroit alors que nous continuons notre culte. Pendant que vous faites cela, je souhaite mentionner quelque chose. Une chose, Serge, que je veux mentionner. Joyeuse fête de père à tous ceux qui sont de père, qui seront de père, qui ont perdu leur père. Bénédiction à chacun d'entre vous alors que vous guidez vos familles, vous dirigez vos familles. Une chose que on va faire, nous chaque année on remplit les sacs pour l'école, pour les familles qui ne sont pas capables. Alors nous avons toujours un but d'avoir 100 sacs. Et l'année passée, j'avais demandé où est-ce que nous en étions. Et à la fin de l'été, on avait seulement 3 sacs. Et c'est que mon encouragement, ce serait que vous puissiez le faire. La deuxième chose, nos enfants veulent que nous puissions être des volontaires dans tous les ministères, particulièrement à Compère. Les mercredis soirs, il y a des besoins pour des femmes venir. J'ai échoué, mais peut-être que vous pouvez venir. Alors, rentrons sur ce passage aujourd'hui. Demeurez fidèles où que vous soyez. Célibataire ou quoi, ayant des enfants ou pas, demeurez. La semaine passée, nous avons célébré le dimanche de Pentecôte en tant qu'église et nous revenons maintenant à notre série de sermons, 1 Corinthiens 5, 7, que nous avons intitulé Conversation interne. Si vous avez manqué l'une de nos précédentes interventions dans cette série, je vous invite à les écouter. Il y a beaucoup de matériel dedans. Vous pouvez utiliser, vous pouvez ne manquer surtout pas la série de podcasts associés qui complètent toutes les interventions. Vous avez des questions, si vous pouvez envoyer-nous ces questions à willingdon.org sur tout ce que vous pouvez avoir comme question à propos de série de tes prédications. OK, introduction. En 1871, une entreprise appelée Pearl Tobacco fut l'une des premières à, cette compagnie fut l'une des premières à utiliser la nudité comme technique de marketing. Il y avait un paquet de cigarettes avec une femme nue. Ce fut un tel succès que d'autres entreprises suivirent bientôt l'exemple. Et aujourd'hui, dans notre culture, nous avons des affirmations comme le sexe, ça vend. Oui. Et nous pensons que c'est comme ça que ça marche. La publicité cible souvent les jeunes de 20 à 29 ans. Et dans ces publicités, 65% de ces publicités ont plus de chances de présenter des modèles habillés de manière provocante. Et 128% plus de chances de représenter de comportements sexuels. Pas seulement les images, mais même les comportements et qui sont en train de faire quelque chose. Et aujourd'hui, au-delà même des de nous, nous avons des applications que je ne vous encouragerais pas de qui s'appelle OnlyFans, où OnlyFans, c'est des individus de père et mère qui se vendent sexuels. Vous me donnez l'argent et je veux vous me révéler plus. Et la question est celle-ci. Que doit faire un chrétien dans un monde aussi hypersexualisé? Marcher de 1871 et à aujourd'hui, on voit tout là, dans tout ce que nous avons. Est-ce comment on fait? On va marcher les yeux fermés, fuir, se cacher, aller se cacher dans une cave, ou je sais pas, jeter notre phone, ou qu'est-ce qu'on fait? Peut-être. Peut-être pas aussi. Alors, allons au passage d'aujourd'hui. J'ai trois points aujourd'hui que je vais partager. Fidèle dans l'intimité, fidèle dans l'engagement, fidèle dans le témoignage. Laissez-moi répéter ça. Fidèle dans l'intimité, fidèle dans l'engagement, fidèle dans le témoignage. Alors, il y a deux dimanches passés, le pasteur Ray a prêché à partir de la seconde moitié de 1 Corinthiens 6 et nous a rappelé par la parole de Dieu que nous ne devons pas séparer le corps de l'âme. Parce que les deux sont des dons de Dieu. Et les deux appartiennent à Dieu. Et dans cet esprit, le corps et l'esprit sont connectés et doivent glorifier Dieu. Et en poursuivant au chapitre 7, nous verrons que Paul aurait tout aussi bien pu nous écrire à nous. Comme nous l'avons dit tout au long de cette série, nous partageons la culture, presque la même culture que les Corinthiens. Et voilà la chose, et le message est le même. Et le remède reste, le remède par rapport à cette hypersexualisation, c'est l'évangile de Christ qui ne change pas. Alors pensons en mon premier point, fidèle dans l'intimité, qui va être comme du premier verset au cinquième verset. Les Corinthiens avaient écrit à Paul pour plusieurs raisons, et Paul a commencé cette lettre en abordant certaines de ses préoccupations. Du chapitre 1 à 5, il parle des choses qu'il connaît et des choses qu'ils ont entendues à propos d'eux. Mais allant au chapitre 7, et finalement, il s'adresse à leurs questions. Et nous, il va répondre à leurs questions. Et je veux apporter un éclaircissement dans le contexte. Et Corinthe était une ville portuaire, ce qui signifiait beaucoup de monde, beaucoup de commerce et beaucoup de voyages, beaucoup de voyageurs. Et beaucoup de gens venaient dans cette cité, beaucoup de voyageurs. Vous savez, à une époque dans la ville de Corinthe, leur figure centrale de culte était la déesse Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Il est rapporté, mais peut-être on pense que c'est un peu exagéré, que le temple d'Aphrodite comptait 1000 prostituées sacrées pour servir la ville. Mais à l'époque de Paul, l'influence d'Aphrodite avait décliné. Et l'immoralité sexuelle, pour certaines raisons, avait progressé. L'immoralité sexuelle prenait de nombreuses formes, comme on sait, du chapitre 1 au chapitre 6. Il dit, ça a pris beaucoup de formes. On va trouver un homme ayant des relations avec la femme de son père, des relations avec des prostituées, l'homosexualité, la pédérastie, qui est la relation entre hommes adultes et adolescents, les hommes adultes et les jeunes adolescents, Et l'adultère qui est compris entre les concubines et les maîtresses, comme c'était la norme à Corinthe, et cela s'infiltrait lentement dans l'église de Corinthe, et nous le savons parce que Paul a abordé certains de ces... pourquoi est-ce qu'on sait? Parce que Paul a abordé certains de ces problèmes. L'église le sait aussi, que toutes ces choses... l'Église sait aussi que l'immoralité sexuelle est allée trop loin et c'est pourquoi nous la voyons entre guillemets. Il est bon pour un homme de ne pas avoir des relations sexuelles avec une... Et c'est la question que l'Église pose. Et voilà comment je formulerai ce que l'Église dit à Paul. Paul, parce que la culture autour de nous est tellement saturée d'immoralité sexuelle, nous croyons que la meilleure, en tant que chrétien, la meilleure réponse est de poursuivre la pureté sexuelle. Et pour nous chrétiens mariés ou célibataires, cela signifie s'abstenir de toute activité sexuelle. C'est ce qu'ils veulent dire au chapitre, au verset premier. Ne pas toucher l'homme ou la femme. Plus de sexe, c'est ce qu'ils sont en train de se dire. C'est assez étrange. Curieusement, l'apôtre Paul est en quelque sorte d'accord avec eux. Il ne dit pas non, 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 non. Si vous regardez, il dit oui. Il est logique que vous... Il est d'accord avec eux que ça a du sens pour être pur de stopper le sexe. Avant de commencer à porter des jugements sur ce qui se passe à Corinthe, faisons un bref retour en arrière sur les dernières décennies ici. Juste les dernières années, des années 50, 1950 à aujourd'hui, dans les années 50, nous avions des émissions de télévision comme, ici à l'ouest, La Maison de la Prairie. Si vous ne l'avez jamais vue, ça n'a rien à voir avec les... Et j'aime Lucie qui, dans ses chaînes, dans ses émissions télévisées, s'il y avait toujours des parents dormant dans les lits séparés. Et ceci était considéré comme normal. Comme ils n'ont jamais eu des enfants, je n'en ai toujours aucune idée. Dans les années 60 et au début des années 70, nous avons eu ce qu'on appelait les « flower power » qui symbolisaient la puissance de fleurs qui symbolisait la paix et l'amour. Ce qui était impliqué n'était pas n'importe quel amour, mais pas n'importe quel genre d'amour. Il s'est déterminé que ça devait être appelé l'amour libre. Cela signifiait un rejet des visions traditionnelles, souvent restrictives, de la sexualité et du mariage. Il s'agissait désormais de liberté sexuelle et d'expérimentation avec de nombreux partenaires sexuels occasionnels ou peu ou pas d'engagement envers un seul partenaire. Ça, c'était l'amour libre. Et puis, dans les années 80 et 90, on a vu une vision conservatrice de la sexualité de courte durée en raison de gouvernements conservateurs. Mais pour certaines régions, les relations sexuelles avant le mariage étaient en hausse et socialement plus acceptables. Cependant, le plus grand facteur durant cette période, dans les années 90, 80, 80, 90, c'était l'épidémie du sida qui avait changé, qui avait apporté une certaine crainte dans la vie de tous. Et maintenant, dans les années 20, 2000, nous ont apporté Internet, suivi de près par la pornographie en ligne. Alors aujourd'hui, en 2025, nos vues et tendances sur les sexes évoluent à un rythme rapide. Personne ne peut suivre cette vitesse. Et les tendances de la pornographie en ligne ont façonné la plupart des choses autour de nous. Ainsi, selon le site de pornographie en ligne le plus consulté, il constate une nouvelle tendance, et cette nouvelle tendance est via leur propre moteur de recherche, une préférence pour un contenu plus traditionnel et modeste. Cela veut dire que les hommes et les femmes cherchent les choses plus traditionnelles. Pour être clair, ça ne doit pas nous donner ce que nous, ça ne doit pas nous donner l'espérance. Pourquoi? On doit être concerné du fait que les gens le cherchent en ligne au lieu de chercher ça avec des gens. Et juste comme Corinthe, dans le futur, quelle que soit la tendance, ça va être disponible. Et revenons à la question de Corinthe à Paul. Il est bon pour un homme de ne pas avoir des relations sexuelles avec une femme. Dans le contexte du mariage, et c'est ça que nous devrons. Dans certains cas, Paul dit absolument. Mais dans le contexte du mariage entre un homme et une femme, il dit non. Si seulement vous êtes en accord qu'il y a une pause que vous allez faire pour jeûner ou pour prier, et après revenez ensemble. Pour être parfaitement clair, Paul ne prône pas ici que toutes les personnes célibataires se marient, et ce n'est pas le but de ce passage, et il le confirmera au verset 8, lorsqu'il rappelle à l'Église que le mariage est un don, tout comme le célibat aussi est un don de Dieu. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, s'oppose aux normes culturelles. Il pousse. Et à l'époque où cela était écrit, le mariage n'était que pour procréer les enfants. Et tout, et c'est tout. Et si vous étiez marié pour à cette époque, c'était seulement pour faire les enfants et jamais pour le plaisir. Le plaisir aux gens de cette époque était confié aux maîtresses et aux prostituées. Et pour les hommes mariés, c'était pour. Et cette idée n'est pas si éloignée d'aujourd'hui. C.S. Lewis, ancien professeur d'anglais à l'université d'Oxford, dans son livre Les Quatre Amours, ce merveilleux livre, il écrit ceci. Nous utilisons une expression très malheureuse quand nous disons d'un homme lubrique rôdant dans les rues qu'il veut une femme. À proprement parler, une femme est précisément ce qu'il ne veut pas. Il veut un plaisir pour lequel une femme se trouve être le nécessaire instrument. Pour paraphraser ce que Lewis dit d'une façon simple, je crois qu'il a raison. Il a 1000% raison et je vais un peu paraphraser ce qu'il a dit. La luxure c'est rechercher le corps. L'amour, c'est rechercher la personne. La luxure, c'est rechercher le corps. L'amour, c'est rechercher la personne. C'est une raison majeure pour laquelle la pornographie en ligne détruit notre génération. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes se noient dans la luxure, dans la poursuite d'humains pour leur corps. Et c'est tout, sans aucun attachement à la personne. Et cette idée n'est pas loin de ce que de l'époque des Corinthiens. L'instruction de Dieu ici par Paul, qu'est-ce qu'il dit? C'est un don de soi à l'autre personne dans le mariage. Le mot donné au verset 3 peut être traduit par une meilleure interprétation qui voudrait dire restituer. Restituer. Que vous prenez une pause ou pas la pause, il dit « Restitue-toi à ton conjoint. » C'est ce qu'il veut dire. Comment alors? Il dit « Par des droits conjugaux. » C'est un terme c'est un terme intéressant. Je pense, ok, premièrement, dans ces droits conjugaux, dans le contexte du mariage, il y a le devoir et l'obligation de chaque conjoint. De chaque conjoint de faire plaisir à son partenaire. Il y a un devoir et une obligation. Et ces termes impliquent aussi l'affection, l'amour et l'appartenance. C'est tout ça. Quand il parle des droits conjugués, il dit qu'il y a des devoirs et des obligations. Et il y a aussi cette affection, cet amour et cette appartenance. Ce n'est pas seulement un acte physique. Le sexe dans le mariage était considéré comme étant uniquement pour la procréation. Maintenant, Paul vient, ça c'est leur compréhension, et maintenant Paul dit non. Couple marié, écoutez. Paul dit à ces couples que leur sexualité restaure l'affection entre mari et femme. C'est leur obligation puisque les deux ne font qu'un dans le mariage. Le sexe unifie les âmes, les corps, l'unité. Et peut-être demandez-vous, alors combien de fois devrions-nous être restaurés par semaine? Et j'ai une réponse. Ma réponse sera celle-ci. Vous devez écouter le podcast pour obtenir la réponse. Mais je dirais ceci. Ça doit être fréquent et ça doit être fréquemment et avec plaisir. Avez-vous écouté cela? La Bible va même plus loin. Verset 4 dit que la femme n'a pas l'autorité sur son corps, mais l'homme a. Historiquement, quand on va, que la femme n'a pas autorité sur son corps, mais la suite dit aussi, de la même façon, le mari aussi n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme a. Église, ça devrait être choquant pour eux d'écouter cela au premier siècle. Oui, ma femme a autorité sur mon corps. C'était normal et c'était socialement accepté que les hommes fassent tout ce qu'ils voulaient faire. Leur corps leur appartenait et Paul vient leur dire non. Et Paul vient leur dire que vous êtes égaux. Dans une culture qui célèbre l'individualité, l'expression de soi et la possession de soi, comme le pasteur Ray a prêché quelques temps plus tôt, il y a mon corps, mon choix. Cette idée biblique selon laquelle le conjoint a des droits sur l'autre était un discours fou. Mais Paul, je pense que c'est aussi un étrange pour nous. Parce que à l'Ouest, on aime cette idée, mon corps, mes choix. Mais Paul avait déjà planté cette graine dans 1 Corinthiens 6. Il a dit, à la fin du chapitre 6, quand il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Il dit cela aux mariés, aux célibataires. Il te dit, tu ne t'appartiens pas. Et pour ceux d'entre nous qui suivent Jésus et sont mariés, il y a un réel sentiment de double propriété. Jésus vous possède et votre conjoint aussi. Vous avez renoncé à vos droits pour ces deux personnes. Et c'est la même chose quand vous êtes marié. Vous avez été mis à part pour Jésus et votre conjoint. Vous ne connaissez pas Don McLeod? Il travaille ici comme ses superviseurs. C'est lui qui est le manager de l'intendant de ce. Qui travaille ici à l'église comme responsable des installations et récemment. Il a restauré une automobile MG avant et après. Et ça, c'est une photo. Et je n'ai pas encore demandé un lift. Quand vous regardez à gauche, c'est quand il a eu cette voiture. Il n'avait rien. Il a eu comme ça, là, comme vous voyez. Et à droite, vous voyez comment il a restauré cela. Il a conduit en route, sur la route, légalement. Mais pourquoi je partage? Nous devrions probablement la jeter. Et pourquoi ne pas la transformer en armoire? Je ne sais pas. Mais voici pourquoi je partage cette histoire. Je ne pense pas que Dieu soit dans le travail de jeter les choses. Vous savez, son travail, c'est quoi? C'est de restaurer, de renouveler, de racheter ce qui est autrefois perdu. Voyez-vous, Paul n'a pas instruit les Corinthiens de jeter leur mariage ou de jeter le sexe. Mais ne jetez pas, mais de les restaurer et les utiliser comme ils étaient conçus, comme la voiture. Passons comme... deuxième point maintenant, fidèle dans l'engagement, le verset 6 à 11. L'apôtre Paul passe maintenant aux personnes qui sont dans la même situation que lui. Ça veut dire des célibataires, lui, non mariés, et il inclut les veuves aussi. Ce qui est intéressant qu'il le fasse. Paul avance très doucement pour encourager pastoralement tous ceux qui sont célibataires ou veufs. Qu'en est-il de nous? Car à l'époque de Corinthe, les célibats étaient vus comme une suspicion. Comme juste pour nous aujourd'hui. On va se poser des questions comme qu'est-ce qui ne va pas chez cette. Quand on rencontre une personne, on se demande qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne pour que personne ne veuille l'épouser. Et à cette époque, c'était le devoir civique de chaque Romain de se marier et d'avoir des enfants. Parce que c'était considéré comme essentiel à une société stable. Le mariage et avoir des enfants, ça stabilisait la société. Et si vous restiez célibataire jusqu'à un certain âge, dans l'Empire romain, vous étiez soit pénalisé pour avoir été célibataire pendant longtemps, soit vous faisiez face à des restrictions pour hériter des biens de vos parents. les veuves et les veufs étaient censés se remarier dans un certain délai, sous peine de sanction. Savez-vous, dans la culture juive, les veuves étaient fréquemment associées aux pauvres et aux sans-pouvoir avec les orphelins et les étrangers. C'est comme ça que c'était vu. Et pourtant ici, au-delà de sexe en dehors du mariage, mais il leur dit à tous qu'il est bon pour eux de rester célibataires. Ok, Paul, dans les versets précédents, et là maintenant il va donner les bénéfices de célibat et je laisserai les paroles des avantages du célibat à quelqu'un d'autre. Merci, Pasteur Bouddhi. Et comme nous devons aborder ce que Paul dit et ne dit pas au verset 9, il vaut mieux se marier que de poursuivre une sexualité immorale. Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Il est mieux de se marier que de poursuivre une sexualité immorale. Et voilà ce qu'il n'est pas en train de dire. Écoutez ce qu'il est en train de dire ici maintenant. Le célibat n'est pas un but ultime pour les célibataires. Ce n'est pas le but, le célibat. Et voici ce qu'il ne dit pas aussi, que le mariage n'est pas un remède pour le péché. Le mariage n'est pas un remède contre le péché ni une concession à la faiblesse. Ce n'est pas un trophée. Et ça ne guérit pas de la convoitise. Le mariage ne vous rend pas plus spirituel. Mais la question, là, il va au cœur de cela. Et la question que j'ai pour les deux parties, à quoi Dieu vous appelle-t-il dans votre mariage ou votre célibat? La pureté sexuelle, la restauration peut-être, le pardon d'une autre personne peut-être, l'affection pour l'un ou l'autre, oui. Mais ceci est pour le Seigneur et pour toi. Si tu as reçu Si vous avez reçu le don du mariage, alors engagez-vous fidèlement dans votre mariage. Si vous avez reçu le don du célibat, alors engagez-vous fidèlement dans votre célibat. Et si vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas le don du célibat, si vous êtes célibat maintenant et vous ne voulez pas être célibat, alors engagez-vous pour le temps intermédiaire. Pas presser le Seigneur ou l'homme ou cette femme. Et permettez-moi de m'adresser un instant à nos jeunes hommes. Alors, revenez ici, messieurs. J'ai eu trop de conversations avec les jeunes hommes dans les 20 ans de ministère aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de conversations sur le mariage, les relations amoureuses et je crois que je peux être capable d'écrire un livre. Et je vous aime quand même, jeunes gens. Je ne devrais peut-être pas, mais je continue. Certains viendraient vers moi, demandent pourquoi les femmes ne semblent pas intéressées à sortir avec moi. Et j'essaie de répondre avec grâce et en demandant qu'est-ce que tu à lui offrir. Et souvent, il y a une grande pause. J'ai un travail. Et c'est quoi la différence? Généralement, il y a un silence. Et j'ai eu un jeune homme qui sortait avec une fille. Et il dit, et voilà ce qu'ils pensent quand ils vont se marier. Ils commencent à me dire, en faisant une liste de tout ce qu'ils vont perdre. Si je la marie, je ne peux plus sortir avec mes amis. Je veux voir les sports et jouer les jeux vidéo. Et si je me marie, je ne pourrais pas être capable. Mais Pasteur Avin, mais je dois vraiment mettre tout vraiment relever la lunette des toilettes à chaque fois. Oui, si tu veux vivre. Certains mariages ont besoin d'aide avec ces applaudissements. Et finalement, j'ai fini par interrompre leur diatribe. Et à propos de ça, de ceci et de cela, et je poserai une question simple. Et voici, jeune homme, mais dis-moi ce que tu vas, ne dis pas ce que tu vas perdre, dis-moi ce que tu vas gagner. Si certains d'entre vous qui ne sont pas chrétiens, c'est la même question que je pose. Ne dis pas qu'est-ce que tu vas perdre. Oui, tu vas perdre. Certains d'entre vous vont perdre beaucoup de choses en suivant Jésus. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu gagnes avec Christ? C'est ça la question. Soit engage-toi à l'épouser, soit engage-toi dans ton célibat, mais quoi qu'il arrive, Dieu veut que tu t'engages fidèlement là où tu es. C'est tout. Et quand toi et moi sommes entièrement engagés dans ce que nous faisons, mariage ou célibat, on n'aura pas toujours les choses correctes. On fera toujours, on va toujours nous pécher. Et la bonne nouvelle, c'est, ça vient d'Éphésiens 5, 25, 32, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau que la parole produit pour faire paraître cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car maintenant, personne ne haït sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin, tout comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Louange à Jésus qui aime fidèlement son Église. Louez Dieu pour les hommes qui cherchent vraiment à suivre l'exemple de Jésus dans leur mariage et dans leur célibat. La vérité est que votre mariage ou votre célibat pointe vers quelque chose de plus grand. Le mariage et le célibat pointe vers Jésus comme l'époux qui est mort pour son épouse. Et nos mariages sont un témoignage, et nos mariages, nos célibats sont un témoignage de cette réalité. Ce qui me conduit au troisième point, fidèle dans le témoignage, du verset 12 à 16. Au verset 8, Paul répond à une question qui n'est pas explicitement énoncée dans le texte. Et le même schéma se poursuit au verset 10. Avant de nous lancer, je tiens d'abord à mentionner les deux déclarations que Paul fait au verset 10 et 12. Vous voyez que ça va être comme un entrecrochet. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur au verset 10. Puis il dit, moi, je dis et non le Seigneur. Concernant cette déclaration de Paul au verset 10 sur le divorce, il fait référence à ce que Jésus a enseigné pendant son ministère terrestre. Il dit, moi, pas le Seigneur, reflète son opinion qui est faillible. Et sachant que toutes les inspirations de Paul sont inspirées par le Saint-Esprit. Alors, il dit, concernant la déclaration de Paul au verset 10, sur les divorces, il fait référence à ce que Jésus a enseigné pendant son ministère terrestre. Jésus a déjà abordé la question sur le divorce. Alors, souvenez-vous de ceci. Il fait référence à Matthieu 5, 31, 32 et à 1 Corinthiens 19. Jésus avait déjà abordé la question que Paul affronte maintenant dans 1 Corinthiens 1, 7, 11. Mais Jésus n'avait pas abordé la question que Paul soulève dans 7, 12, 16, que je vais apporter. Et si, Église, vous voulez avoir notre opinion sur le divorce, vous pouvez avoir un pamphlet que nous avons fait sur cela. Et puis, et si vous allez dans notre série de sermons sur Matthieu, et Paul ne suggère pas. La raison pour laquelle Jésus n'a pas directement abordé cette question particulière, et que son ministère terrestre s'inscrivait dans un contexte juif, où les Juifs, c'était la norme que les Juifs épousent généralement d'autres Juifs. En revanche, Paul aborde maintenant une situation nouvelle et unique des convertis d'origine païenne au christianisme qui sont mariés à des conjoints non croyants. C'est pour ce qu'il est en train de dire, le Seigneur n'en a pas parlé, mais je vais en parler. Et en allant back au verset 10, pour revenir au verset 10, il semble sûr de dire qu'il s'agit des deux chrétiens qui envisagent de divorcer. Paul n'y passe pas beaucoup de temps, comme j'ai dit, parce que il pense que le Seigneur en a déjà parlé. Le problème sur lequel il passe beaucoup plus de temps, c'est le verset 12, où il y a un couple marié dont l'un des conjoints s'est converti au christianisme pendant le mariage, mais pas l'autre. Et la question pour Paul, si je me retrouve que j'être chrétien et que ma femme ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. C'est ça la... Et on a besoin d'une réponse. Et il expose la réponse. Il dit ceci, si votre conjoint non croyant consent à rester avec vous, alors demeurez, ne divorcez pas. Mais au verset 15, et là au verset 15, il dit, mais vous les chrétiens, si elle ou il ou elle choisit de vous quitter à cause de votre fidélité à Jésus, alors laissez-le ou la partir. Cependant, au milieu de tout cela, il donne deux instructions, de rester ou de le laisser partir. Et au milieu de tout cela et à la fin, il ajoute un verset qui de l'expérience. 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, alors qu'à présent, ils sont saints. OK. Ça peut apporter beaucoup de confusion. Remarquez que Paul n'utilise pas le mot sauver. mais pur, mais utilise le mot rendu saint. Il encourage le conjoint chrétien à rester et à être témoin fidèle pour sa famille. Parce que vous êtes un moyen de les orienter vers la grâce salvatrice de Dieu, vous seul. Pas seulement pour votre conjoint, mais aussi pour vos enfants. C'est pourquoi il ajoute les enfants. Vous seul, chrétien, qui aidez à pointer les autres vers Dieu, les maris et les enfants. Cela veut dire les non-croyants de votre famille sont mis à part, sanctifiés pour que vous soyez. Dieu te sépare avec ta famille pour que tu les pointes vers Jésus. Non pour les forcer à venir au culte de dimanche ou au groupe de jeunes, ça ne va pas aider. Mais ils sont mis à part pour le Seigneur, pour devenir enfant de Dieu. Et tu es au milieu de tout ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Et tu vas de l'intimité à l'engagement, puis au témoignage. Et à travers de tout, Paul ne donne pas de conseils matrimoniaux. Bien qu'il y ait des mariages, des conseils, mais il vous pointe vers Jésus. Le mariage et le célibat ne sont pas l'ultime. Christ est l'ultime but. Tout au long du chapitre 7, les chrétiens de Corinthe avaient le cœur bien placé. Ils voulaient être saints, mis à part pour Dieu. Ils voulaient que leur vie soit vue comme pleinement dévouée à Jésus. Et c'est une bonne chose. Mais c'est pas la chose ultime. Christ est l'ultime but. Et Dieu vous a mis à part pour cette raison, pour le point que vous soyez marié ou célibat. Et pour conclure, je vais partager une histoire personnelle. Certains d'entre vous qui me connaissent mon histoire. Mais d'autres pas. Avant d'épouser Laura, j'ai eu des relations sexuelles avec d'autres femmes avant que Dieu ne me sauve. Quand je l'ai avoué à Laura, elle aurait pu légitimement me voir comme un homme impur. Et si ma fille vient avec un homme exactement comme moi, je dehors. Un homme impur qui pourrait potentiellement la rendre impure. J'étais un homme qui s'était donné à d'autres femmes et non à elle. Mais après être devenu chrétien, je pensais que le but était d'éviter toutes les femmes et de ne pas avoir de sexe et que ça allait me rendre pur. Loin de cela. Éviter toutes les femmes ne m'a pas rendu pur. Qu'est-ce qui m'a rendu pur? C'est Jésus. Pas le fait d'éviter. Laura sait que Jésus m'a rendu pur. Elle sait que Jésus l'a rendu pur aussi. C'est pourquoi elle aime Jésus parce que Jésus nous a rendu pur. Tout au long de l'évangile, on nous raconte histoire après histoire de Jésus touchant, guérissant et étant avec des gens impurs. Les lépreux, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les pharisiens. Et la liste est longue. Mais pas une seule fois Jésus, qui était pur, n'est devenu impur. La vérité est que c'est l'inverse exact qui s'est produit. Tout ce qui était impur que Jésus a touché est devenu pur. Grâce soit rendue à Dieu parce qu'il m'a rendu pur et toute personne qu'il touche est rendue pure. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vie sexuelle, mariage, divorce, célibat, dans votre vie en tant que chrétien, notre tâche n'est pas de fuir et de nous cacher, de fermer les yeux et de tâtonner dans la vie. Mais sachez ceci, dans le mariage de l'Église avec Christ, nous ne disons pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit ici sur la terre, mais c'est que Jésus dit, ma mort garantit que nous ne serons jamais séparés. Gloire. Comme les questions sur la réflexion vont être affichées, il y a beaucoup. Si vous avez des questions aussi, envoyez-les pour notre podcast ask@willingdon.org. Il y aura des gens qui vont prier. Si vous ne vous sentez pas à l'aise,